Radio Okapi. Grande interview.
Le Canada est disposé à soutenir les acteurs politiques qui travaillent pour le changement souhaité par le peuple congolais, dont l'amélioration des conditions sociales, la création des emplois, la lutte contre l'impunité et surtout l'avènement de l'état des droits. C'est ce qu'a affirmé à Radio Okapi l'ambassadeur du Canada dans une interview de Revoir, puisqu'il est fin mandat. Nicolas Simard estime que la crise entre le FCC et le CASH est perceptible, qu'il faille consulter la classe politique pour un nouveau départ. Pour l'ambassadeur du Canada, son gouvernement soutiendra tous les efforts du président Félix Tshisekedi visant à centrer son action sur les aspirations du peuple congolais. Pour en parler, Nicolas Simard est donc invité des grandes interviews. Il nous parle notamment de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, de l'apport du Canada et de sa perception sur l'avenir de la RDC. Produite avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki et Pelé Kipela, cette émission vous est présentée par Michel Kifindango. Grande interview, c'est parti. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue à ce nouveau numéro de Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, qui est fin mandat et il a accepté de nous accorder cette interview. Avec lui, nous allons parler notamment de la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, des actions du Canada en RDC, mais aussi de la réalité ou alors de sa lecture des faits. Avant son départ au Canada, quel espoir, quelle vision Monsieur l'ambassadeur Nicolas Simard a pour la République démocratique du Congo? Monsieur l'ambassadeur, bonjour.
Bonjour, mbote na yo.
Mbote.
Nazani malamu.
Ah, kitoko.
Nasepeli komo na yo.
Ça prouve en suffisance que Monsieur l'ambassadeur a fait 3 ans en République démocratique du Congo. Il est venu canadien, il rentre congolais. Alors Monsieur l'ambassadeur, nous voudrions savoir le sentiment qui vous anime en ce moment.
Bon, bah écoutez, c'est un sentiment d'accomplissement parce qu'on a fait beaucoup de choses évidemment au cours de ces 3 années, mais un sentiment de tristesse aussi parce que en 3 ans, surtout dans les conditions dans lesquelles on a vécu au cours de ces 3 années, on développe beaucoup d'amitiés avec des Congolaises, des Congolais, d'autres ambassadeurs également. Donc c'est jamais facile de quitter et pour moi c'était aussi quand même une période assez spéciale puisque je suis venu pour la première fois sans ma famille. Ma famille est venue avec moi seulement pendant 1 an et demi. Donc c'était aussi tout une nouvelle apprentissage. Mais les Congolais ont été très chaleureux, très accueillants. Et je garde un souvenir vraiment formidable de ces 3 années et de la chaleur des accueils de la communauté congolaise.
Alors quel fut le Congo que vous avez trouvé à votre arrivée et lequel laissez-vous derrière vous?
Alors à mon arrivée, je suis arrivé le 7 septembre 2017 et vous vous rappelez qu'à l'époque on était en plein glissement, c'est un mot que j'ai appris aussi dans une autre signification en RDC, on était en plein glissement préélectoraux, les élections devaient avoir lieu en 2016, elles ont été reportées en 2017, ensuite elles ont été reportées en 2018, donc il y a eu beaucoup malheureusement de dérapages et beaucoup de violence. C'était une époque où il y avait des manifestations pacifiques, les gens pouvaient mourir pour manifester pacifiquement, pour demander le changement, pour demander des élections crédibles, transparentes. Et donc, c'était une période vraiment très, très dure, où on sentait que l'espace démocratique était très restreint, que la population n'avait pas l'espace nécessaire pour s'exprimer librement, où les journalistes aussi étaient fortement réprimés. On ne sentait pas à l'époque une liberté de parole qu'on a retrouvée par la suite dans l'espace public et notamment dans les médias. Je ne dis pas que tout est parfait, mais il y a eu quand même une évolution. Alors que justement, aujourd'hui, au moment de mon départ, je constate que la population dans son ensemble a la capacité de s'exprimer librement. Il y a eu des leaders politiques qui sont revenus de l'étranger. Il y a eu Jean-Pierre Bemba qui est revenu, il y a eu Moïse Katumbi qui est revenu vendredi dernier. Il est arrivé pour la première fois depuis plus de 5 ans à Kinshasa. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue. Et il n'y a eu aucune violence. Ça, ce n'était inimaginable à l'époque, j'avais 3 ans, quand je suis arrivé. Donc, il y a eu des progrès importants au niveau des droits de la personne, au niveau de l'espace démocratique. En même temps, il faut reconnaître qu'il y a toujours des défis importants, notamment dans les zones de conflit, que ce soit dans l'Est, mais surtout dans l'Est de la RDC. On note une aggravation actuellement des violations des droits de la personne et des massacres qui malheureusement ont toujours lieu à cause des activités des groupes armés dans l'Est de la RDC. Et pour ça, je pense qu'il est important, il est fondamental d'accélérer l'activité que nous avons impulsée, que nous avons accompagnée sur la lutte contre l'impunité. J'ai rencontré le docteur Mukwege lors de mes déplacements, on en a beaucoup parlé à Bukavu, j'en ai parlé avec plusieurs acteurs politiques. Actuellement, il est indispensable pour la paix et la stabilité du Congo de vraiment travailler sur le secteur de la justice et la lutte contre l'impunité.
L'actualité politique congolaise est dominée par ce que d'aucuns qualifient de crise entre le FCC et le CACH, les deux alliés au pouvoir, ce qui amène le président de la République d'initier des consultations en vue de former ce qu'il a appelé « Union sacrée pour la nation ». Comment percevez-vous cette actualité? Quelle lecture faites-vous concrètement de cette situation?
Alors, depuis les élections, le Canada a une position qui a été très cohérente durant toute cette période de janvier 2019, quand les résultats ont été déclarés jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été toujours de dire que la population avait demandé du changement, elle avait demandé des services sociaux, des créations d'emplois, de l'amélioration de la condition économique, et que le Canada soutenait les acteurs politiques qui allaient pouvoir avancer pour livrer ce programme de changement. Le président Tshisekedi, lors de son discours d'assermentation en janvier 2019, s'est très clairement exprimé sur cette question. Il a pris des engagements auprès de la population qui était massivement présente lors de son discours d'assermentation. J'y étais tout juste à côté au Palais de la Nation. Il y avait une foule impressionnante. Et cette population est en attente aujourd'hui. On a encore ces querelles politiques qui portent en grande partie sur la préparation des prochaines élections en 2023. Mais il y a un mandat qui est en cours. On est en plein mandat. On est en milieu du quinquennat, ou presque. Et donc, la population s'attend à ce que les choses changent. Mais malheureusement, elles ne changent pas vite. Elles ne changent pas au rythme qu'elles le souhaiteraient. Parce que il y a un blocage qui est visible, qui est sensible dans la coalition actuelle. Donc, sans prendre parti, bien sûr, parce que je respecte une position de neutralité, mais je reconnais qu'il est tout à fait normal de vouloir trouver des mécanismes par lesquels sortir de l'impasse actuelle pour être en mesure de livrer les changements auxquels s'attend la population congolaise. Et je souhaite vivement, je serai peut-être pas là pour le voir parce que je vais quitter dans les prochaines semaines, je souhaite vivement que les leaders politiques de tous les côtés auront la maturité nécessaire pour s'entendre et pour pouvoir livrer un programme de changement qui donne des résultats concrets pour la population congolaise.
Et vous étiez témoin de la première passation pacifique du pouvoir en RDC depuis que le pays a accédé à son indépendance. Pensez-vous que la RDC est sur une bonne voie?
Oui, comme je l'ai dit, j'ai rencontré à plusieurs reprises le président Tshisekedi, y compris hier pour lui dire au revoir, parce que j'ai commencé déjà ma tournée d'au revoir et j'ai rencontré la ministre des Affaires étrangères ainsi que le président. Et je sens que qu'il y a une réelle volonté de changement, il y a une volonté politique de lutter contre la corruption, d'apporter des résultats pour la population dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la paix et de la stabilité, dans le domaine de l'intégration régionale, du discours positif avec les voisins du Congo également, de créer des nouveaux liens, de créer de la stabilité dans la sous-région et des échanges commerciaux pour le développement de toute la région. Le président, d'ailleurs, va bientôt, en février prochain, devrait prendre la présidence de l'Union africaine. Donc le Congo aura un rôle très important à jouer au niveau continental en tant que président de l'Union africaine. Donc ça, c'est des développements qui sont très positifs. Et je dirais pour moi, comme diplomate canadien, il a été beaucoup plus facile de travailler en RDC depuis janvier 2019 que dans la période précédente entre mon arrivée en 2017 jusqu'aux élections. Et on sent qu'il y a une écoute, qu'il y a une volonté de dialogue avec la communauté internationale. Et ça nous amène à considérer des initiatives d'investissement, des initiatives de développement d'une manière différente et de parler aux investisseurs canadiens avec un message différent que ce qu'on aurait pu avoir il y a quelques années.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard. Avec lui, nous parlons à présent des actions et des priorités du gouvernement canadien en République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les priorités du gouvernement canadien en RDC et dites-nous quelles sont celles que vous avez pu réaliser au cours de votre mandat et celles que vous n'avez pas pu atteindre?
Oui, bon, forcément, 3 ans, ça passe vite, hein. Comme je disais à des amis récemment, des fois, j'ai l'impression que je suis là depuis 2 semaines seulement parce que ça passait à telle vitesse. Des fois, j'ai l'impression que ça fait 10 ans parce qu'il y a une telle intensité d'événements que ça représente une grosse partie de ma vie en étant très, très ramassée, très intense. Bon, une des grandes priorités, bien sûr, pour le Canada, ça a été, et c'est toujours, notre politique. On a une politique étrangère féministe, une politique de développement international féministe. On a des leaders politiques au Canada qui croient dans l'égalité des genres. L'égalité, ce n'est pas qu'un enjeu pour les femmes, c'est un enjeu pour tous. Et les hommes doivent s'engager. Et lors de mon mandat ici, j'en ai parlé avec beaucoup de leaders politiques masculins. J'étais très agréablement surpris de voir l'écoute pour le changement, pour plus d'égalité des sexes en République démocratique du Congo. Donc ça a été une grande priorité pour nous. De manière très concrète, on a eu des projets de développement pour accompagner la justice, l'autonomisation et la dignité des femmes et des filles. Un projet avec les organisations multilatérales et en appui au ministère du genre, enfants et familles. Et c'est un projet, en fait, qui est un peu comme pour le One Stop Center du Dr. Mukwege avec l'hôpital Panzi, offre aussi des services aux survivantes de violences sexuelles pour tout ce qui touche les services de santé, bien sûr, les services psychologiques, l'accompagnement économique et aussi pour suivre en justice les hommes qui ont commis des violences contre les femmes. Et donc, c'est un aspect de notre coopération qui est très importante, ainsi que l'engagement avec la société civile. Parce que j'ai rencontré, lors de ces 3 années, des leaders d'opinion, des femmes engagées, et avec l'engagement des femmes pour la paix, c'est tout le monde finalement qui bénéficie de la paix en RDC. Et donc, pour moi, ça a été une grande priorité. D'ailleurs, j'ai été président du groupe des donateurs sur l'égalité des genres. J'ai été coprésident avec la représentante d'ONU Femmes, Awandi Isaac, du groupe One Plus One. J'ai beaucoup travaillé avec les ministres nationaux et provinciaux du genre. Et on a fait bouger les lignes. Je pense que les choses avancent. Bien sûr, tout n'est pas réglé. Il y a encore beaucoup de violence. Il y en a encore trop. Mais il y a quand même une progression. Il y a une prise de conscience. On a fait beaucoup de travail de sensibilisation à travers le théâtre, notamment avec une pièce qui s'appelait « Bongote Tika ». Pas comme ça, arrête, qui a permis la mobilisation de dizaines de milliers de gens à Kinshasa et ailleurs en province sur ces questions de prévention contre les violences sexuelles et la promotion de l'égalité des genres, parce que c'est un enjeu culturel. Il faut changer la mentalité et la culture est un outil formidable pour le faire. Donc ça, c'est un volet, mais bien sûr, le Canada était très actif sur les questions de paix, droits humains, sécurité, stabilisation. Nous avons 8 officiers canadiens qui sont très bien installés au sein de la MONUSCO pour jouer des rôles de planification militaire et de liaison. On est très très actif au sein de la MONUSCO dans des rôles stratégiques. On a aussi un accompagnement maintenant avec un ravitaillement aérien tactique qui est basé à Entebbe et qui ravitaille des missions de maintien de la paix, mais surtout la MONUSCO, mais aussi la mission de maintien de la paix au Sud-Soudan. Et au-delà des aspects, je dirais, plus militaires, il y a tout le travail de plaidoyer diplomatique, le travail de rencontre dont je parlais tout à l'heure avec les autorités provinciales pour les convaincre Qu'il faut maintenant mettre un terme à l'impunité, que les chefs de guerre, ceux qui ont commis des atrocités, ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme, des crimes contre l'humanité, soient arrêtés, soient jugés, soient condamnés et soient gardés en prison. On ne veut pas qu'ils disparaissent après quelques années. Il faut qu'ils restent en prison et qu'ils payent les conséquences de leurs crimes. Et ça, c'est un changement important. On a eu aussi, avec plusieurs ambassadeurs et ambassadrices, un dialogue récemment avec le président Tshisekedi à ce sujet, avec des membres de son gouvernement. Et on sent qu'il y a une écoute sur ces enjeux-là et une compréhension que dorénavant, les chefs de guerre ne peuvent plus être réintégrés dans les FARDC. On ne peut plus offrir comme programme de démobilisation, réintégration, relèvement communautaire une solution de facilité qui est d'offrir aux rebelles ou à des groupes armés qui ont commis des atrocités de les amener ensuite dans les forces armées. Donc ça, c'est un changement extrêmement important que nous avons accompagné, incluant aussi le renforcement du rôle des femmes dans les missions de maintien de la paix et la protection contre des enfants pour qu'ils ne soient pas utilisés comme enfants soldats.
Puisque vous parlez de l'apport du Canada au sein de la MONUSCO, dites-nous, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes satisfait du travail que abat la mission des Nations Unies en RDC jusqu'ici?
Oui, absolument. Écoutez, le Congo est un territoire énorme. On parle souvent d'un pays continent. Bon, moi, je viens du Canada, qui est un pays encore plus énorme, parce que il couvre trois océans. Donc, mais à l'échelle africaine, le Congo est un pays qui est le deuxième plus grand pays d'Afrique et le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, qui touche à l'est de l'Afrique, au centre de l'Afrique, à l'Afrique australe et proche de l'Afrique de l'Ouest, d'une certaine manière. Et donc, c'est un très, très grand pays et il faut se rendre compte que même si c'est l'une des plus grandes missions de maintien de la paix dans le monde, peut-être maintenant après celle qui est déployée au Mali, c'est quand même un contingent d'à peu près 14-15 000 femmes et hommes qui sont sur un territoire immense avec 150 groupes armés qui opèrent dans différents terrains qu'ils connaissent très bien. Donc le défi opérationnel est immense et je trouve qu'il est souvent facile de critiquer des missions comme celle-là pour ce qu'elles ne font pas, alors qu'on ne met pas de l'avant ou en valeur ce qu'elles font. Et c'est le problème de la prévention des conflits. Quand on fait de la prévention de conflits, on ne voit pas ce qu'il y aurait eu lieu si ces mesures n'avaient pas été mises en place. Et moi, je dis toujours, si la MONUSCO n'était pas là, forcément, la situation sécuritaire de l'Est du Congo aurait été bien pire que ce qu'on a connu actuellement. Mais un élément important, bien sûr, c'est que la sécurité des Congolaises et des Congolais, c'est d'abord et avant tout une responsabilité de l'État congolais. Et le travail de la MONUSCO est aussi un travail d'accompagnement pour renforcer les institutions, renforcer notamment les FARDC dans ses capacités à gérer la situation sécuritaire dans ce terrain.
Alors bientôt auront des discussions en vue de proroger le mandat de la MONUSCO et cela s'inscrit dans la perspective de son départ de la RDC. Et quelle sera la position de votre pays à ce sujet?
Il est tout à fait normal. Les missions de maintien de la paix de la taille de la MONUSCO ne peuvent pas rester au Congo éternellement. Et donc, il est tout à fait normal qu'après plus de 25 ans, plus de 20 ans, une mission comme celle de la MONUSCO éventuellement évolue puisse être réduite et éventuellement quitter la RDC. Ceci dit, il faut absolument que le pays soit prêt à ce départ. Et pour l'instant, quand on observe l'accroissement des conflits dans l'Est, quand on observe l'accroissement des violences, des violations des droits humains, je ne peux pas dire que la situation soit favorable. Un départ proche de la MONUSCO. Donc, le travail de renforcement des institutions dont je parlais tout à l'heure, il est primordial de manière à préparer cette transition pour un éventuel départ de la MONUSCO. Il y a une stratégie qui a été adoptée entre la MONUSCO et l'État congolais pour concentrer davantage des efforts dans les trois provinces dans lesquelles se situent davantage les conflits, l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Je pense que c'est une approche tout à fait utile de manière à mettre davantage de pression sur les groupes armés qui se situent dans cette région du pays, mais toujours dans une logique d'accompagnement des forces congolaises.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard. Avec lui, nous parlons à présent de sa projection sur la RDC après 3 ans d'observation et de travail dans ce pays. Et monsieur l'ambassadeur, vous partez au moment où l'insécurité s'accroît dans les provinces du Kivu et de l'Ituri notamment. Y a-t-il à votre avis une solution pour mettre fin à l'existence des groupes armés qui pullulent sur le territoire congolais?
Bon, il y a plusieurs solutions, il n'y en a jamais une seule. Hein. C'est un conflit qui existe depuis 25 ans avec énormément d'acteurs sur le terrain, avec des groupes armés qui sont souvent manipulés par des acteurs politiques également. On a souvent mis la justice de côté pour favoriser la paix. On a pensé que ça allait favoriser la paix parce qu'on allait calmer les acteurs qui étaient en présence. Mais à long terme, on se rend compte qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et actuellement, il y a cette prise de conscience au niveau international d'un accompagnement nécessaire, notamment de la part du Canada, pour faire en sorte que les perpétrateurs de violences massives contre les droits de l'homme ou contre ceux qui commettent des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre soient jugés et payent les conséquences de leurs actes. Donc ça, c'est un aspect fondamental. Tant qu'on ne réglera pas ça, cette question de l'impunité, on pourra faire ce qu'on voudra, mais il y aura toujours d'autres qui vont prendre le relais. On peut en arrêter un, mais s'il y en a d'autres qui continuent. Si c'est vu comme un modèle économique, finalement, on ne pourra pas arrêter les conflits dans l'est de la RDC. Donc ça, c'est un aspect de la solution. L'autre aspect de la solution, une autre solution importante, c'est ce qu'on appelle les programmes de démobilisation, désarmement et relèvement communautaire. Traditionnellement, dans le passé, il y a eu plusieurs tentatives de programmes de DDR qui ont été plus ou moins fructueux. Et dans les leçons apprises, une leçon importante, c'était de voir que il fallait éviter que les rebelles, finalement, ou les groupes armés soient récompensés, entre guillemets, en étant intégrés dans les FRDC et souvent avec des grades comparables que ce qu'ils avaient comme groupe rebelle. Donc un général qui s'était auto-déclaré général ou un colonel qui s'était auto-déclaré devenait de facto un colonel dans l'armée congolaise ou un général. Donc ça, c'est évidemment, c'est encourager la violence parce que des gens voient que c'est une opportunité d'ascension sociale, de réussite, et que c'est en commettant la violence qu'on obtient des choses pour soi, pour sa famille, pour son entourage. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Et puis aussi, dans les programmes de DDR traditionnels, on a mis l'accent sur les combattants et pas sur les communautés. Et quand on a des programmes qui accompagnent les combattants, là aussi, les jeunes qui sont dans ces milieux se disent « Mais si je suis combattant, j'aurai accès à des services qui vont m'être offerts par la suite. » Donc ça encourage la participation aux groupes armés. Tandis que l'approche qui est envisagée actuellement, c'est de travailler davantage sur le développement des communautés, le développement économique des communautés, et de faire en sorte que les combattants soient réinsérés dans des communautés, mais à travers un appui financier qui touche toute la communauté.
Alors, avec vos collègues ambassadeurs des États-Unis et de la Grande-Bretagne notamment, vous avez mené des activités communes de terrain, notamment dans la province de l'Équateur, précisément dans le secteur de la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, bon, on s'était vu d'ailleurs ici à la résidence canadienne avec mes collègues et amis Mike Hammer et Emily Maltman. Et à l'époque, bon, on était dans une situation où on voyait une progression de la 11e épidémie d'Ebola. Et on s'était rendu compte lors de notre visite de terrain qu'il y avait eu certains abus au niveau du recrutement du personnel. Et on avait parlé de la nécessité de mettre fin à l'Ebola business, à la corruption, dans les contextes humanitaires, dans les contextes de santé. Ce qui est intéressant, c'est que suite à ces interventions, tout de suite, le ministère de la Santé a réagi. Ils ont pris des mesures correctives. Et actuellement aussi, avec l'engagement du professeur Muyembe, qui a été désigné coordonnateur pour la riposte contre l'épidémie d'Ebola dans l'Équateur. on voit que cette épidémie est presque contenue. Actuellement, il n'y a presque plus de cas qui se déclarent. Et si ça continue comme ça pendant quelques semaines, cette épidémie pourra être déclarée terminée. Donc c'est un exemple de l'engagement qui montre que finalement, quand on travaille sur la lutte contre des situations de crise humanitaire, il faut travailler aussi sur la lutte contre la corruption. Parce qu'il peut y avoir des liens très forts entre les deux. Et pour ma part et pour mes collègues, c'était très important de montrer que il y a une volonté de changement en cours dans la lutte contre la corruption. Et cette volonté de changement, on doit l'accompagner et on doit montrer que nos pays, nous sommes là pour trouver, aider les Congolaises et les Congolais à trouver des solutions dans la lutte contre la corruption. Parce que c'est à travers cette lutte qu'on améliore l'accès à des services de santé, qu'on améliore l'accès à l'éducation, qu'on améliore l'infrastructure. Donc au final, c'est la population congolaise qui en ressort renforcée de la lutte contre la corruption, aux dépens de ceux qui tiraient profit de la corruption et qui utilisaient, qui instrumentalisaient finalement toutes sortes de crises pour s'enrichir personnellement aux dépens de l'État congolais et aux dépens de la population congolaise.
Quel aura été le plus grand souvenir que vous garderez de la République démocratique du Congo durant les trois dernières années?
Le plus grand souvenir, bon, je vais vous en donner peut-être deux. Je dirais que au niveau politique, ça a été de vivre justement cette transition pacifique du pouvoir entre deux présidents. Ça n'avait jamais été vu au Congo. Tous les présidents précédents avaient été soit assassinés, soit exilés, et donc c'était toujours une transition qui avait lieu par la violence. C'est la première fois qu'il y a une transition non violente. Donc pour moi, c'était un moment extrêmement fort, et je me rappelle encore au Palais de la Nation, à quelques mètres de la résidence canadienne. J'étais présent et il y avait une population immense de Kinshasa qui accédait pour la plupart, pour la première fois, à la zone de la Gombe, qui était présent, qui demandait le changement. Donc c'était un moment très, 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 très fort et dont je garde un souvenir incroyable. Et sur le plan personnel, on parlait de la beauté du pays tout à l'heure. J'ai beaucoup voyagé à travers tout le pays. J'ai été à l'est, au sud, au centre, au nord, dans l'ouest, et récemment, lors d'un voyage dans l'est du pays, j'ai gravi le volcan Nyiragongo, qui est un des volcans les plus actifs au monde, qui est le plus grand lac de lave au monde, au sommet. Et c'était pour moi une expérience formidable, parce que c'est une ascension de 1500 mètres, une marche de six heures pour gravir. On dort au sommet du volcan, ensuite 6 heures pour descendre. Et j'ai trouvé sur le plan personnel que c'était vraiment une expérience formidable qui démontre la beauté du pays, son potentiel touristique, son potentiel économique. Mais c'est un potentiel qui ne pourra pas se réaliser sans la paix et la sécurité et sans un environnement des affaires qui soit vraiment amélioré.
Nous sommes à la fin de notre entretien, Monsieur l'Ambassadeur. S'il vous est demandé de formuler un vœu pour la République démocratique du Congo, ce sera lequel?
Un seul vœu?
Oui.
Je dirais la bonne entente des acteurs politiques qui auraient en tête l'intérêt supérieur de la nation et de la population congolaise.
Et pour terminer, je vous laisse dire quelque chose à la population congolaise dans l'une de nos langues nationales que vous avez pu apprendre pendant ces trois dernières années.
Je peux remercier déjà, je peux vous dire Matondo Domingi. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous, de vous souhaiter tout le meilleur pour la suite. J'ai été ici pendant 3 ans en République démocratique du Congo, très impressionné par la résilience, l'engagement, la créativité des Congolaises et des Congolais. Et je vous souhaite tout le meilleur. Continuez à demander le changement. Continuez à vous engager. C'est à travers votre engagement que votre pays va devenir plus beau qu'avant. Merci beaucoup. Matondo Domingue.
Monsieur Nicolas Simard, je vous remercie.
Merci à vous et au plaisir.
Merci.
Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission vous a été présentée avec le concours de Kevin Kouté, sous la supervision de Jean-Marc Matoua qui est mêlé de la photo. Je suis Michel Fifi-Nangoy. Je prends rendez-vous avec vous samedi prochain à 10h05 pour un nouveau numéro. Merci de rester fidèles à la fréquence de la paix. Au revoir.